La rencontre spirituelle aujourd'hui, je veux vous raconter une belle histoire d'amour. L'histoire d'amour d'Élisabeth et de Félix le Sœur, qui se sont mariés en 1889. Et ça a été une histoire d'amour absolument exceptionnelle. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose de très spécial pour eux. C'est un couple que je trouve digne, à mon avis, d'être canonisé. Ce serait merveilleux s'il y avait des couples modernes canonisés. Il y en a des couples anciens canonisés, mais modernes, ce serait bien. Élisabeth, donc, et Félix le Sœur, L-E-S-E-U-R, tout simplement. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le mariage, c'est un grand sacrement. L'Église ne cesse de le répéter. Et c'est ce qui a arraché à la femme un état de quasi-esclavage où l'homme en disposait comme il voulait. Car le mariage chrétien fait de la femme l'égale de l'homme. Et l'homme ne peut pas en disposer comme ça, comme il veut. Ils sont unis pour toujours. Ils consacrent l'union, le mariage chrétien, l'union de l'homme et de la femme. Le mariage catholique pose la pierre d'un nouveau foyer. Là où Dieu va créer des enfants. Mais c'est également une prise en charge de l'un par l'autre. Hein? L'homme prend charge de la femme. La femme prend charge de l'homme. Et devant Dieu et devant les hommes, le mari est responsable de sa femme, comme la femme est responsable de son mari. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair, dit la liturgie. Une seule chair. Je me demande s'ils étaient persuadés de cette vérité, les deux qui se sont unis le mercredi 31 juillet 1889 à l'église Saint-Germain-des-Prés, que plusieurs d'entre vous ont visité sans doute, car qui va à Paris va à Saint-Germain-des-Prés. Ils se sont mariés au milieu d'une foule de parents et d'amis. Puis le discours de l'officiant m'a dû le leur rappeler. Car le mariage se donne par les laïcs. Nous sommes ministres de notre propre sacrement. Le prêtre est là pour officier, pour bénir au nom de l'Église ce mariage que les époux se donnent. Et les deux familles appartenaient au même milieu, un milieu grand bourgeois. Mais marié, lui, il avait 28 ans. Et elle, pas encore tout à fait 23 ans. Ils s'étaient rencontrés chez des amis. Alors, l'âge, puis la fortune, disons, les goûts aussi, tous les avaient rapprochés. Et quant à la question religieuse, ben, les divisaient pas non plus. Ils étaient tous deux catholiques, élevés religieusement. Mais toutefois, lui, le jeune homme, Félix le Sœur, à une question qui lui avait été posée, avait répondu loyalement qu'il avait perdu la foi. Il avait abandonné toute pratique, et puis... Mais il respecterait chez sa femme la liberté religieuse. La fin du 19e siècle, beaucoup de fiancés se contentaient de cette promesse de neutralité. Et ça existe encore aujourd'hui de plus en plus. Sa femme s'appelait Élisabeth Arrigui. Elle avait donc accepté d'épouser Félix le Sœur. Je m'inspire d'un texte de Geneviève du Hamlet. Geneviève du Hamlet, qui a été vice-présidente de l'Association des écrivains catholiques de France autrefois, membre de la Société des gens de lettres aussi, puis de la Société des poètes français. Elle a beaucoup écrit. Alors, elle nous raconte que, fils d'un avoué, c'est-à-dire une sorte d'avocat, disons, de Reims, en Champagne, Félix le Sœur, avait été élevé à Juilly, chez les oratoriens. Vous savez, les disciples de Saint-Philippe Néri. Des hommes cultivés en général, et il était attiré par les colonies françaises. Il décide de faire d'abord sa médecine afin de partir ensuite en mission scientifique, mais c'est un grand dévoreur de livres. Il se cultive dans tous les domaines. Puis, après l'école de médecine de Reims, il vient à Paris pour achever ses études. Il se jette à corps perdu dans tous les plaisirs, comme dans tous les courants d'idées. Il fait même occasionnellement du journalisme. Toujours à propos là, de la géographie qu'il passionne. Hein, mais quand il rencontre Élisabeth Arrigui. Arrigui, c'est A-2-R-I-G-H-I. Il est externe des hôpitaux quand il la rencontre. Et quand il l'épouse, il est docteur en médecine. mais il doit renoncer à son rêve de mission lointaine. La famille des Arrighi, de sa femme, n'entendent pas se séparer de leur fille, surtout pour la voir partir outre-mer. Alors, entre Élisabeth puis l'aventure coloniale, bien Félix, le sœur, choisit Élisabeth. Et le beau voyage de noces s'achève. Mais le jeune ménage réside quelques semaines à Reims, toujours en Champagne, d'où ma famille vient évidemment, et puis, puisque j'en porte même le nom, et puis Félix est appelé pour une période militaire. Là, Élisabeth conquiert ses beaux-parents par sa grâce et sa gentillesse. C'est une femme exceptionnelle. Et c'est dans cette maison familiale de Reims que brusquement elle est terrassée par la maladie. C'est un abcès abdominal qui s'ouvre dans l'intestin et fait craindre une péritonite. On peut cependant l'éviter, puis la jeune femme guérit, mais une fistule s'est formée qui ne se refermera jamais. Et c'est en vain que Félix, qui est médecin, se souvient qu'il est médecin. Il amène au chevet de sa femme des grands professeurs, et ni l'un ni l'autre de ces spécialistes en chirurgie ne veut tenter une opération qui semble extrêmement hasardeuse. Alors Élisabeth demeure toute sa vie une blessée, et sa santé si florissante jusque-là a été dès ce jour, on peut dire, compromise. Puis ça a décliné peu à peu, et c'est couché sur un brancard que la jeune femme entre dans l'appartement arrangé avec tant d'amour et qui aurait dû servir de cadre à tant de joie légitime d'un beau mariage. Le prêtre qui les avait mariés avait évoqué pour eux, selon l'usage, les promesses de l'Église aux époux. Il leur avait parlé que c'était comme un plant d'olivier, vous savez, la vigne féconde, c'est dans les psaumes. Hélas, ce grand et beau foyer des Le Sœur va demeurer stérile. Pas d'enfant. C'était un mariage voué à une commune tendresse seulement. Et c'est là qu'ils vont trouver la force de vivre au milieu des épreuves. Et ça n'allait pas tarder. En moins de 4 mois, le père d'Élisabeth meurt, suivi par le père de Félix. C'est un double deuil qui affecte profondément la jeune femme, qui est mal remise de sa maladie très grave. Il lui faut de longs mois de convalescence qui nécessitent la présence près d'elle de son mari. Et pourtant, Félix, lui, il cherche une situation, évidemment. Il décide de faire du journalisme. Il devient rédacteur à la République française. Il y tient la rubrique de politique étrangère, parce qu'il s'intéresse toujours à la politique des colonies françaises. La netteté de son esprit, son érudition, qui est très grande, lui permet de dominer les sujets les plus difficiles. Il est perspicace aussi, il est précis, mais il est parfois violent, et qui ne le serait pas avec tant de souffrance. Puis la catastrophe de Panama, qui a entraîné la déconfiture de son journal, La République française. Alors Félix Le Sœur entre dans un autre journal, Le Siècle. Il y défend brillamment l'œuvre coloniale de la France. Et le ministre des colonies le nomme en novembre 1894, il était encore jeune, membre du Conseil supérieur des colonies, avec résidence en Algérie. Et cette fois encore, la famille Arrighi, ses beaux-parents, s'opposent à ce départ. Parce que leur fille est malade. Et alors, Félix Le Sœur renonce, il abandonne définitivement la carrière coloniale et même le journalisme, puis devient, grâce à des appuis qui viennent de sa famille, administrateur d'une compagnie d'assurance, le pauvre homme. Mais ça peut être intéressant parce que assurer les autres, c'est leur permettre de vivre en paix. L'assurance, c'est une bonne chose, c'est un métier qui peut être très grand. Agent d'assurance, quoi, ou administrateur d'une compagnie d'assurance. Et là, la vie du ménage Le Sœur semble brillante, facile. Font de beaux voyages en France et à l'étranger. Il y a des réceptions, des concerts, des soirées théâtrales. Et puis, ils ont de vrais amis. Mais Élisabeth ne se laisse pas absorber par tout ça, ni par le souci de son intérieur, de la maison, qu'elle tient cependant avec beaucoup de goût. Elle ne se laisse pas prendre par le tourbillon des mondanités non plus. Non, vraiment pas. Et puis, parce que la situation de son mari pourrait l'y entraîner, elle découvre qu'elle dispose dans la journée de certaines heures de liberté. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle n'a pas d'enfant. Elle consacre ça à sa culture personnelle. Et en 1892, 3 ans après son mariage, donc elle n'a pas tout à fait 26 ans, elle se met au latin. Étrange, hein? Et 2 ans plus tard, c'est le russe qui l'attend. Oui, la langue russe. Et elle réussit en peu de temps à parler et à écrire cette langue si difficile. Mais au milieu d'une existence si intense et si pleine, on peut se demander où se situe la vie religieuse d'Élisabeth. Alors Félix Lesœur avait promis de respecter les convictions religieuses de sa femme. Puis alors, qu'est-ce qu'il fait de cette promesse? Il va l'avouer plus tard, avec beaucoup d'humilité. Cette promesse, il ne l'a pas tenue. La fréquentation de milieux parlementaires très anticléricaux à cette époque, ben c'est, ça annonce, n'est-ce pas, la loi Combes, la France va chasser toutes les communautés religieuses, alors il se règne un climat anticlérical. Alors, ça agit, ça, sur Félix Lesœur. Alors, l'indifférent qu'il était est devenu nettement anti-religieux. Et bien plus, il dit, avec la tournure de mon esprit, je m'étais appliqué à rechercher les motifs d'incrédulité comme un vrai chrétien cherche les raisons de croire. Alors, il se passionne donc pour l'étude des religions. Mais il puise sa documentation dans des sources malheureusement protestantes, puisqu'il est de milieu catholique, et dans des sources rationalistes aussi, surtout, et modernistes même. Il lit exclusivement les adversaires de l'Église. Alors, évidemment, Renan, Sabatier, Loisy, Strauss, etc. Puis ces nouvelles façons de penser influent sur ses dispositions à l'égard des sentiments religieux de sa femme. Alors, lui qui était indifférent, il pouvait tolérer la pratique religieuse de sa femme, même assister à la messe à côté d'elle. Mais là, l'anticlérical d'aujourd'hui ne peut plus supporter ce qu'elle appelle une faiblesse et une infériorité chez sa compagne. Il trouve que c'est une faiblesse, lui, une infériorité chez sa compagne. Il l'aime pourtant bien tendrement, toujours autant, et avec une persévérance, sournoise, là, mais logique. Eh bien, Félix Lesœur s'efforce de ruiner les croyances d'Élisabeth. Alors, la littérature russe anarchique puis morbide, c'est le premier agent de destruction qu'il met entre les mains de sa femme. Il profite de leur voyage à l'étranger, où, dans la bonne intimité à deux, chaque impression l'amène à son but secret. Et en juillet 1897, un long périple les conduit à travers l'Europe centrale et leur permet de séjourner à Bayreuth. Vous savez, là où sont les grands festivals Wagner. Et au retour, le très mince fil qui relie encore Élisabeth à la foi religieuse est brisé. Elle ne pratique plus. Son mari a gagné. Mais Félix Lesœur triomphe silencieusement. Il lui semble qu'il va avoir à parfaire l'œuvre de dévastation qui s'est proposé. Et c'est ainsi qu'un jour de l'été 1898, Élisabeth lui a demandé quelque chose à lire. Et il lui tend quoi? On peut le deviner pour ceux qui connaissent un peu cette époque. Hein? La vie de Jésus de Renan. Mais la grâce s'en mêle, c'est étrange. Et ce livre qui était destiné à ruiner définitivement la foi chez Élisabeth va devenir l'instrument de sa conversion. Il dit, avec son intelligence hors ligne et très équilibrée, avec son jugement sûr, c'est ce qu'il écrit plus tard, et son extrême bon sens et sa forte culture, ma femme ne fut pas abusée par la magie des mots, mais au contraire, elle a été frappée par l'indigence du fond. D'instinct, Élisabeth Lesœur, comme vous avez pu voir, revient aux sources, c'est-à-dire à l'Évangile, en lisant, chose étrange, la vie de Jésus de Renan que son mari lui a passée pour la rendre vraiment incroyante. Alors, elle revient à l'Évangile. Je ne saurais vous donner un meilleur conseil. Vous avez de la difficulté à croire, lisez donc l'Évangile. Lisez-le lentement. Lisez-le très lentement. Absorbez-le. Mastiquez-le. Et la foi qui semblait morte chez Élisabeth, mais qui n'était qu'endormie, se réveille dans les profondeurs de son âme et son mari s'en aperçoit. Il veut regagner le terrain perdu. Alors là, il ne lit plus par en dessous, mais à visage découvert. Alors là, il devient un peu mesquin. Il lui adresse des railleries, des taquineries, des critiques, sur un ton bien désagréable. Il va l'avouer plus tard d'un mot, il était devenu méchant. Mais trop tard, le danger est passé. Élisabeth souffre, mais elle ne craint plus. La certitude est revenue, et pour jamais. 3 ans plus tard, elle-même va résumer dans son journal cette crise d'âme, et c'est très beau ce qu'elle écrit. C'est une jeune femme encore, une 30aine d'années. Je revois l'action lente et silencieuse de la Providence en moi. Et pour moi, cette œuvre admirable de la conversion intérieure, provoquée, guidée, accomplie par Dieu seul, hors de toute influence humaine, de tout contact extérieur, parfois au moyen de ce qui aurait dû m'enlever toute foi religieuse, œuvre dont on ne saisit toute l'intelligente et volontaire beauté que lorsqu'elle est achevée. Alors la voie montante où elle s'engage nous est connue par son journal, justement. En effet, le 11 septembre 1899, elle commence à noter les progrès de son âme. Je vous en lis les premières lignes. Depuis un an, j'ai beaucoup pensé, beaucoup prié. J'ai cherché sans cesse à m'éclairer. Et dans ce travail perpétuel, mon esprit a acquis plus de maturité. Mes convictions sont devenues plus profondes et aussi mon amour pour les âmes. Chose singulière, dans cette voie montante, elle s'y engage seule, sans prêtre pour la guider. Sans doute elle pratique, se confesse au curé de sa paroisse, mais elle ne cherche pas de directeur. C'est aux livres qu'elle va demander conseil, mais ses livres, ce sont ceux des pères et des docteurs de l'Église. Elle ne lit pas n'importe quelle petite chose. Je regrette, une dame m'a téléphoné l'autre jour, elle lisait des choses qu'elle ne devrait pas lire. Mais elle, Élisabeth, elle lit Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, ou encore le père Faber, qui était très populaire à l'époque, comme le père Gratry, le père Sertilange, Monseigneur Gay, Monseigneur Dulst. Je vous ai consacré une émission à ce merveilleux Monseigneur Dulst. Et surtout, elle lit, relit, médite les évangiles. En 1903 seulement, elle aura un directeur, le père Hébert, un dominicain. Du jour où Élisabeth le Sœur a recouvré la foi, eh bien, elle reçoit en même temps sa vocation. Elle ne peut être chrétienne pour elle seule. Elle sera donc chrétienne pour les autres, et surtout pour celui qu'elle nomme si tendrement son cher Félix. Elle est comme Sainte Monique pour Saint Augustin, son fils, n'est-ce pas? C'est Sainte Monique qui a converti son fils Saint Augustin. Et elle n'a jamais douté que cet époux de tant de larmes ne soit un jour où elle est, dans le christianisme. C'est elle qui écrit, cet époux de tant de larmes. En attendant, eh bien en attendant, c'est son rôle de souffrir et de mériter, comme on dit dans le temps. Mais son mari n'est pas le seul objet de son apostolat. Des grappes d'âmes sont attachées désormais à la sienne et deviennent son fardeau permanent. Elle prend en charge tous ceux qu'elle nomme ses chers incroyants. Ce sont en quelque sorte les frères de son cher Félix. Et dès les premières pages du journal, 11 septembre 1899, elle note ceci. « Je veux aimer d'un amour particulier ceux que leur naissance, leur religion ou leurs idées éloignent de moi. Ce sont ceux-là surtout que j'ai besoin de comprendre et qui ont besoin que je leur donne un peu de ce que Dieu a mis en moi. » L'année 1903 est vraiment pour Élisabeth le Sœur une année bénie. Elle accompagne son mari à Rome et le 22 avril, seule dans la basilique Saint-Pierre, elle se consacre définitivement au Dieu qu'elle a retrouvé. Or, c'est superbe ce qu'elle écrit. « Je suis parti seul pour Saint-Pierre, et après m'être confessé à un prêtre parlant français, je suis allé communier à la chapelle du Saint-Sacrement. » Vous savez, c'est à droite, là, cette grande chapelle, grande comme une église. « Et ces instants-là, écrit-elle, ont été pleinement, surnaturellement heureux. J'ai senti vivre en moi, présent, et m'apportant un amour ineffable, le Christ béni. Dieu même, et cette âme incomparable a parlé à la mienne, et toute la tendresse infinie du Sauveur a passé un instant en moi. Je me suis donné sans réserve, et je lui ai donné l'avenir. Eh bien, cet avenir, il était gros d'épreuves. La mort de sa sœur Juliette, après une douloureuse et implacable maladie, l'affaiblissement de sa propre santé aussi. Il semble qu'Élisabeth, la sœur, a eu à plusieurs reprises l'étrange pressentiment de ce que plus tard va devenir son mari. Lorsque Juliette reçoit l'extrême-onction, se passe un fait émouvant raconté par Élisabeth dans un petit livre consacré à Juliette, à la défunte. « Savez-vous, Félix, ce que j'ai fait pendant que vous n'étiez pas là ?»« Non, » dit Félix, qui le savait parfaitement. « Eh bien, j'ai reçu l'extrême-onction et j'ai offert pour vous une partie de ce que j'ai fait. » Félix, très ému et s'efforçant de le cacher, lui dit en plaisantant, « Tu ne me trouves donc pas bien ?» Et elle, alors, avec un accent d'une douceur inexprimable, « Mais si, justement, tant de bonté et de qualité ne peuvent pas rester inutiles. » Et lui, lui dit, « Tu ne veux pourtant pas que je me fasse prêtre ?» Alors, intervenant, et c'est Élisabeth qui parle, et cherchant aussi à dissimuler ma profonde émotion, je dis à Juliette, « C'est cela, il se fera prêtre quand il deviendra veuf. Et quand tu seras vieille, il te donnera de nouveau l'extrême-onction. » Un autre jour, la prédiction est plus nette encore, c'est en 1912. Élisabeth et Félix font une promenade en voiture avec une religieuse de leurs amis. C'est devant elle qu'a été prononcée cette parole absolument étrange. « Si je mourais, que ferais-tu ?» disait Monsieur le Sœur. « J'entrerai dans un couvent, » répond sa femme. « Et toi, Félix, si je te quittais ?»« Oh, moi, je ne sais pas, vraiment. » Et elle lui dit, « Toi, tu te ferais moine, comme je te connais. Je suis absolument sûr que le jour où tu reviendrais à Dieu, tu ne t'arrêterais pas en chemin, car tu ne fais pas les choses à demi. » Et enfin, vers la même époque, Élisabeth dit encore à son mari, « Quand je serai morte, tu verras, tu te convertiras. Et lorsque tu seras converti, tu deviendras religieux, tu seras don le sœur ou le père le sœur. Oh, je crois, tu seras le père le sœur. » Élisabeth sentait bien que sa mort était proche. Ses souffrances augmentaient, elle dut subir une opération, et en avril 1911, là, à ce moment, elle fait le sacrifice de sa vie. Et là, l'état de la malade allait s'aggravant. L'opération, en apparence bénigne, qu'elle avait subie, avait révélé un cancer, et en juin 1913, ce cancer se généralise. Et jusqu'à la fin, le 3 mai 1914, ce n'est qu'une lente et affreuse agonie, et la dernière page du journal est datée du 9 janvier 1914. Voici les dernières lignes. « On ne tardait plus à exaucer, ô mon Dieu, ces désirs que vous connaissez bien. Accomplissez vite les intimes conversions et les profondes sanctifications que j'attends de votre grâce. Rapprochez de mon âme les âmes qui me sont les plus chères, celle qui m'est chère entre toutes, et mettez fin à cette douloureuse solitude d'esprit qui me pèse tant. Et puis, sanctifiez-moi aussi par toute cette souffrance. Rapprochez-moi de votre cœur et apprenez-moi à vous mieux aimer et à vous mieux servir. Je prends la résolution et pour cela j'implore votre grâce de ne plus céder dans l'avenir aux défaillances que j'ai connues aux heures pénibles, d'être constamment douce, humble, pleine de charité. Aidez-moi, cher Sauveur. » Alors, douce, humble, pleine de charité, c'est ainsi que tous ceux qui ont connu Élisabeth la définissent. Son désir d'apostolat n'avait rien d'autoritaire ni d'agressif. Le silence, la prière, l'exemple, une charité toujours agissante et compatissante, une compréhension totale des misères et des défaillances, telles étaient ses armes. Et la paix surnaturelle qui s'exhalait d'elle. Et sur son lit de mort, elle avait un si beau sourire que tous en ont été frappés et son mari a pu écrire « Vision d'un être jouissant d'une paix surnaturelle. Ah, elle est admirable et douce à contempler. » Et ainsi Élisabeth préludait à sa mission, ou plutôt, elle avait achevé, car dans l'âme de celui qu'elle semblait avoir quitté et dont elle était éternellement la compagne, les eaux de la grâce sourdaient de toutes parts. Peu de jours avant sa mort, Élisabeth avait répété à son mari, « Tu viendras me retrouver, je le sais. » Mais les premiers jours ont été terribles pour le veuf. Il était désemparé. C'est alors que, sur le conseil de sa belle-sœur, il commence la lecture du journal d'Élisabeth, sa femme, dont il ignorait d'ailleurs l'existence. Il y retrouve les traces de leur vie à deux. Cette tendresse patiente de sa femme. Mais il retrouve aussi ses taquineries à lui. Mais il lit surtout la foi indéfectible d'Élisabeth. Sa certitude du salut de son cher Félix, comme elle l'appelle, son mari. Le journal, puis le cimetière pendant les jours qui ont suivi son deuil. Monsieur le sœur ne connaît rien d'autre. Il se plonge dans le journal, puis il va au cimetière. Il se pose aucune question, il souffre. Il est incroyant. Et son entourage s'alarme de sa tristesse qui va grandissante. Alors un ami s'offre à l'amener hors de Paris pour quelques jours, pour lui permettre de se reprendre. Le 11 juin, vers 10h30 du matin, il roule dans la belle vallée de la Corrèze. Le paysage est magnifique. Et Félix le sœur est détendu pour la première fois depuis 5 semaines. Il se laisse aller à tout ce qui l'entoure. Ça lui plaît. Et soudain, il lui semble entendre au-dedans de lui-même la voix de sa femme qui dit « J'ai du chagrin ». Comme sur un ton de supplication. Bouleversé, Félix le sœur pense, puis il raconte, « Mais elle vit. Je viens d'avoir l'impression presque physique de sa présence. Mais alors si Élisabeth est vivante, c'est que l'âme est immortelle, et c'est donc que Dieu existe. » Mais il y a des doutes. L'aube de la résurrection, comme on pourrait dire, commence à se lever en lui. Avant la fin du voyage, il arrive à Paray-le-Monial. C'est là, j'en ai souvent parlé, c'est là, les apparitions du Sacré-Cœur, n'est-ce pas? Alors, dans la basilique de Paray-le-Monial, c'est une belle basilique, il entend une seconde fois l'appel intérieur. J'espère que c'était dans la basilique, la vieille, l'ancienne église, là, avec ce Christ Pantocrator qu'on a découvert à la fin des années 40. Il écrit, j'eus la perception plus précise encore de la chère présence de sa femme. Je tombai à genoux irrésistiblement. Élisabeth, en quelque sorte, me joignit les mains, et tout en pleurant, je priai. Sans trop savoir comment, puisque j'avais désappris depuis longtemps toute prière. Mais je m'adressai à notre Seigneur, dont la statue dominait l'autel, avec l'élan sincère de mon âme. J'avais vraiment l'intuition qu'il était là, dans le tabernacle, et que son infinie bonté se penchait vers moi. Je restai ainsi près d'un quart d'heure, abîmé dans ma surprise et mon émotion, suppliant Élisabeth de prier pour moi. Alors, rentré à Paris, il est repris par la vie quotidienne. Alors, il veut bien croire qu'il a rêvé. Il met ça de côté. C'est un médecin. Alors, le médecin, en lui, contrôle les impressions qu'il croit nerveuses. C'est occasionné par le choc affectif qui a été causé par la mort de sa femme. Alors, il peut tourner la page. Mais il ne tourne pas la page du journal. Il continue à le lire, le journal de sa femme. Un séjour, le 14 juillet, chez des amis, qui sont de fervents chrétiens, qui lui parlent d'Élisabeth. Ça lui permet de découvrir tout à coup, comme il écrit, un horizon que, jusqu'en ces derniers mois, je n'avais pas voulu apercevoir. Et là, le 2 août, éclate la guerre mondiale, 1914. Le 25, le président du conseil d'administration de sa compagnie d'assurance lui donne l'ordre de quitter Paris et de se rendre à Bordeaux avec la fortune considérable de cette compagnie. Et en dépit de toutes sortes de difficultés, Monsieur le sœur peut quitter Paris en auto. Il gagne Orléans, puis Vierzon. Et puis là, il prend là un train qui est archibondé, où il trouve place que dans le fourgon à bagages. Et c'est là que pendant la nuit, la voix d'Élisabeth se fait encore entendre en lui. Qu'est-ce qu'il entend? Ceci. si tu as pu quitter Paris dans ces circonstances providentielles, ta mission n'en est que le prétexte. La vérité, c'est qu'il te faut aller à Lourdes. Dieu t'y attend.
Il est stupéfait. Il doute s'il dort ou s'il veille.
Alors, Félix, la sœur, résiste d'abord, mais la voix reprend plus précise et plus nette. Va à Lourdes. Il le faut. Alors il répond, docile, « Dès que ma mission sera remplie, j'irai, je te le promets. » Ce n'est qu'au premier jour d'octobre qu'il a pu accomplir cette promesse, d'abord parce que sa mission fut plus longue qu'il ne le pensait, et puis parce qu'il ajournait sans cesse ce voyage à Lourdes. Il avait peur un peu. Et pour la troisième fois, il y était venu jadis avec sa mère, puis en 1912 avec sa femme. Alors donc, pour la troisième fois, il foulait ce sol. Je dis bien ce sol béni de Lourdes. Ah, si vous n'êtes pas allé à Lourdes, vous manquez quelque chose. Moi, j'y suis allé reculons, croyant que j'éclaterais de rire. J'ai plutôt pleuré. C'est si beau. Pas beau esthétiquement. Beau de charité, de bonté. Et ce n'était que l'encombrement des pèlerinages qu'il a trouvé. Mais c'était un lourd de guerre, intime et dépouillé. Une semaine durant, Félix le sœur va errer là, du rosaire à la grotte et de la grotte au chemin de croix, complètement seul. Mais il se reprend. Il dit, je viens de dire que j'étais seul. Ce n'est pas exact. Je me sentais accompagné par Élisabeth dans toutes ces stations. Ah, elle était là à mes côtés, bien qu'invisible. Elle me dirigeait, elle me conduisait à Dieu. Puis là, un matin, à la grotte, il sent l'action mystérieuse et envahissante de la grâce. Il tombe à genoux puis il prie. Comme il écrit, « Je prie, suppliant la Sainte Vierge de m'obtenir la foi, de demander à son divin Fils de m'éclairer, de me pardonner et de me prendre à lui. J'ai été vaincu. » Alors, rentré à Paris, il fait venir auprès de lui sa vieille mère si pieuse. Il s'émerveille de voir son fils prodigue revenir au Dieu de sa première communion. Félix prie, il assiste à la messe, il lit les évangiles et tous les livres dont Élisabeth a nourri sa foi, qui avait été menacée puis finalement triomphante. Aucun prêtre, aucun ami ne l'aide d'abord dans cette reconquête-là. Puis quelqu'un lui parle du Père Janvier, le fameux Père Janvier, célèbre prédicateur de Notre-Dame. Faudrait qu'un jour je vous fasse une émission sur lui. Oh, mon Dieu, j'ai trop de choses à faire. Et Félix le sœur le voit deux ou trois fois, se confesse à lui. Il y a près de 40 ans qu'il ne l'a fait. Ça fait 40 ans qu'il ne s'est pas confessé. Car sa confession pour son mariage n'avait été que pure forme. Et le Père Janvier lui dit, « Vous communierez demain matin. » Il répond, « Comment, si vite ?» L'autre lui dit, « Oui, oui, oui. » Et M. le sœur obéit. Il se rend à la chapelle de la rue Saint, de la rue Jean Goujon, si chère à Élisabeth. Et cette communion, dont il attendait comme une illumination, eh bien, elle est étrangement aride. Puis il est tenté de désespérer. Il croyait avoir des émotions, mais... Alors il résout de porter cette tentation sur la tombe de sa femme, il va au cimetière. Mais en s'y rendant, la voix mystérieuse lui parle encore, mettant au point toute chose. Et elle lui dit, ce serait trop commode si, après avoir toute ton existence d'homme, renié, combattu Dieu et Jésus-Christ, parce que tu t'es confessé, que tu as communié, tu allais posséder d'emblée toutes les clartés, toutes les consolations, ce serait presque immoral, Félix. Il ne s'agit plus ici de ta sensibilité, mais de ta volonté que tu dois mettre dorénavant au service du Christ pour conquérir vraiment la foi avec sa grâce. Et ainsi donc, et presque quotidiennement, Félix le sœur s'unit désormais au Christ dans l'Eucharistie. Mais il apporte à sa conversion la discrétion, et je dirais la distinction qu'il apporte à toute chose. Continuant sa vie, ses occupations, ses relations d'amitié et de famille, il songe à l'avenir. Les paroles d'Élisabeth lui reviennent à la mémoire. « Tu seras don le sœur ou père le sœur. Oui, tu seras père le sœur. » Alors en septembre 1915, il confie à son confesseur son désir de se faire religieux et religieux dominicain. Est-ce qu'il y en a qui pensent à ça, se faire religieux dominicain? Quelle grande vocation! Quelle grande vocation plutôt que de ne rien faire de sa vie quand on est célibataire. Mais le père Janvier l'interrompt brusquement, lui dit non. Ce sont des pensées de néophytes, de nouveaux convertis. Restez dans le monde, vous y ferez du bien. Alors sa famille a eu d'autres objections, il avait ses habitudes de confort et même de luxe. Il est plus jeune. Puis tout ça, c'est bien difficile à modifier à son âge. Il laissait dire. Lui, il était sûr de sa vocation. Il était humblement soumis à tous ces retards-là que tous ces faux petits égarements lui avaient mérités, c'est ce qu'il se disait avec humilité. Alors, il met à profit ce temps d'épreuve en cherchant un éditeur pour le journal d'Élisabeth, sa femme. Car tous ceux à qui il l'a montré ont été unanimes. En lui disant, vous n'avez pas le droit de garder pour vous seul une telle richesse spirituelle, il faut le publier. Et au printemps de 1917, avant la fin de la guerre, la première édition, 2000 exemplaires, paraît. C'était traduit en plusieurs langues. Le journal a été tiré à plus de 200 000 exemplaires. Mais je me demande si on peut toujours trouver ça. Mais la résolution de M. Le Sœur était inébranlable. Alors là, le père Janvier, son directeur, l'autorise à faire une retraite. Dans un des couvents de l'ordre des Dominicains, en Italie. Et il lui ménage auparavant une audience privée du pape Benoît XV pour la remise du livre d'Élisabeth. Mais le père Janvier, il dit au souverain pontife que M. Le Sœur avait l'intention de prendre l'habit de Saint-Dominique, le pape proteste spontanément... Il lui dit « Non, ne faites pas cela. Toutes les fois que l'on me consulte sur une vocation tardive, analogue à la vôtre, je la déconseille de toutes mes forces. Il faut se méfier des entraînements trop généreux. » Et le pape ajoute, comme le père Janvier, « Restez donc catholique, fervent dans le siècle. Cela sera bien plus profitable à tous les points de vue. » Mais dire que toute sa vie, Félix Le Sœur, médecin, avait cru que le clergé poussait aux vocations religieuses. Même le pape. Alors il sut toutefois émouvoir le pape, qui en le congédiant lui donne un espoir. Vous avez un directeur qui vous conduit, qui vous connaît. Alors s'il vous y autorise, alors je bénis vos projets. Et voilà que il fait 10 jours de retraite à Viterbe, en Italie. Et ces 10 jours de retraite achèvent de décider Félix Le Sœur, le docteur Félix Le Sœur. Ça achève aussi de convaincre le père Janvier. Le mari d'Élisabeth va bien être le père Le Sœur. Et le docteur Le Sœur, qui est veuf depuis quelque temps, qui était un croyant, s'est converti et songe à se faire dominicain. Mais il faut s'arracher à tant de choses quand on veut devenir dominicain à 57 ans. Il faut abandonner bien des souvenirs. Il faut renoncer à des habitudes. Je vous le dis encore, 57 ans. Il est médecin. Et c'est à Lourdes où il fait un nouveau séjour de 2 mois qu'il demande à la Sainte Vierge la force d'accomplir son sacrifice. Malgré son âge déjà mûr, il est ce jeune homme riche à qui le Christ vient dire « Vends, vends tout tes biens et suis-moi. » Alors il vend, il donne ses livres. C'est le plus cher de ses biens, ses livres. Il vend ses meubles, ses tableaux. Il démissionne de la société qu'il a dirigée si longtemps. Il prend congé de ses amis, de sa famille, de ses domestiques fidèles, car il avait des domestiques, qui lui disent « Monsieur a bien tort de s'en aller au couvent. Au couvent, on ne lui fera pas la cuisine qu'il aime. » Alors il s'arrache à tout. Il franchit le seuil de sa maison. J'ai cru que j'allais mourir. Et le voici donc, novice au Sauchoir, la fameux couvent du Sauchoir en Belgique. C'est en septembre 1919. Tous ses compagnons sont des jeunes gens. et frère Marie-Albert, c'est le nouveau nom de Félix Le Sœur, mènent la même vie que levée de nuit, longs offices au cœur. Mon Dieu, comme ça a changé. Hein. Humiliation du chapitre, je pense que ça n'existe plus, ça. Le soin de sa cellule, on lui confie en outre la tâche d'infirmier puisqu'il est médecin. Études, prières et surtout croix quotidienne de la vie en communauté. Le chauffage est insuffisant. J'ai goûté à ça dans les monastères d'Europe. C'est tellement froid que ça n'a pas de sens. La nourriture simple aussi. Manger des pommes de terre pendant une semaine ou deux, c'est pas facile. Rien d'autre. J'ai connu ça. Puis, c'est très monotone. Hein? Très monotone. Quoi d'étonnant qu'au bout de 4 mois de ce régime, le frère Marie-Albert tombe gravement malade. Les supérieurs se concertent. S'il faut l'envoyer à l'hôpital, il devra au retour recommencer tout son noviciat. Alors, il sera donc soigné dans sa cellule. Il va subir l'humiliation de n'être plus qu'un malade à la charge de la communauté des Dominicains. La guérison arrive pourtant et sa profession ne sera pas retardée. Alors, il prononce ses vœux. Le 23 septembre 1920, ça va assez vite. Hein? Alors, novice, prophète, il a devant lui 7 ans d'études avant de devenir prêtre. Mais en présence de ce cas exceptionnel et puis devant la formation intellectuelle hors pair du frère Marie-Albert, le maître général, c'est-à-dire le supérieur général des Dominicains, le maître général, le dispense de ses 3 ans de philosophie et l'autorise à commencer sa théologie. Et là, le 23 mars 1923, il prononce ses vœux perpétuels. Et quelques semaines plus tard, le 8 juillet, à Lille, tout près de la Belgique, en l'église Saint-Maurice, il est ordonné prêtre. Il a 62 ans. Il avait été marié 25 ans. Il sera prêtre 27 ans. L'image de souvenir de son ordination porte cette phrase d'Élisabeth, extraite de son testament spirituel. Écoutez bien ce qu'il a mis, cette phrase de sa femme. « Lorsque toi aussi tu seras devenu disciple de Jésus-Christ et membre vivant de l'Église, consacre ton existence transformée par la grâce à la prière et au don de toi-même dans la charité. Sois chrétien et sois apôtre. » Je pense que je le répète, c'est trop beau. C'est donc derrière son image d'ordination. C'est la parole de sa femme. « Lorsque toi aussi tu seras devenu disciple de Jésus-Christ et membre vivant de l'Église, consacre ton existence, transformée par la grâce, à la prière et au don de toi-même dans la charité. Sois chrétien et sois apôtre. » Et la vie tout entière du Père Le Sœur a répondu à ce programme, et depuis la publication du journal, il ne se considérait que comme le secrétaire d'Élisabeth. Ses supérieurs l'ont autorisé à continuer ce genre de ministère. Alors on lui écrit, on lui demande des détails sur sa chère Élisabeth, on se recommande à ses prières, on fait part des grâces reçues par l'intercession de sa femme. Et bientôt on lui demande d'en parler en public, alors il hésite d'abord. Est-ce bien à lui, prêtre et moine, de parler de sa propre femme? Alors ses supérieurs consultés, non seulement l'y autorisent, mais encore il l'engage à ça. Et alors commence pour lui cette existence absolument phénoménale de nomade de la parole qu'est le conférencier. Dans tous les milieux, dans toutes les villes de France et de l'étranger, il va jusqu'en Belgique, en Suisse, au Portugal, au Danemark, en Suède, en Norvège, dans les pays luthériens. Il parle de sa chère Élisabeth. Il puise à pleine main dans le trésor spirituel de ses écrits. N'est-il pas bien à lui, ce trésor? Ça lui a été légué par sa propre femme. Le mariage, c'est quoi? C'est une communauté. Hein? Et tout ce qui appartient à l'épouse est à l'époux. Alors c'est à lui, ce journal. Et voici que la lecture de ses livres, il a publié successivement les Lettres sur la souffrance, la vie spirituelle, les lettres aux incroyants. Et il a rédigé lui-même une vie d'Élisabeth Le Sœur. L'élan de sa parole, tout ça et ses livres établissent une sorte de dévotion autour d'Élisabeth. On lui écrit, cette sainte, votre sainte. Alors le Père Le Sœur se voit investi par tout le peuple, l'ensemble du peuple, d'une autre mission. Celle de, vous le devinez, solliciter de Rome la béatification d'Élisabeth. Il lui faut à cet effet réunir les lettres, les écrits, les récits, les grâces attribuées à son intercession, établir la liste des témoins à interroger, rédiger les articles qui sont la base juridique du procès. Et de même, en vue d'une éventuelle reconnaissance des restes, là, il y a un transfert du cercueil d'Élisabeth au cimetière du cimetière Montmartre, la sépulture de famille, au caveau des Dominicains à Bagneux. C'est une cérémonie déchirante, d'autant qu'au sortir du caveau, les planches du cercueil se rompent, puis apparu à la lumière, ce qui n'a de nom dans aucune langue, comme dit Bossuet. Hein? Rien n'est épargné à Félix le Sœur. Et il a eu le courage, la consolation de bénir la nouvelle tombe. La préparation du procès semble s'annoncer favorablement. En 1941, il ne manque que l'audition des témoins du village de Franche-Comté où ils avaient eu jadis leur maison de vacances. Mais en 1941, c'est la guerre. Tout s'arrête. Ainsi Dieu lui refuse cette joie d'assister à la béatification d'Élisabeth. Malgré son admirable résignation, on peut dire que ce coup le frappe à mort. Et à partir de 1942, la belle intelligence du père de sœur commence à s'obscurcir lentement. Sa mémoire diminue. Et ce vieillissement insidieux s'accentue de jour en jour et il doit séjourner presque constamment à l'hôpital. Chose singulière, il semble qu'Élisabeth s'éloigne de lui. Le passé s'estompe peu à peu, mais il va terminer sa vie dans le Maine-et-Loire, dans un hospice de vieillards, le 21 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Le 21 février 1950, il tombe et se brise le col du fémur et c'est la fin. Il reçoit l'extrême onction. Le bon Dieu finira bien par venir me chercher. Et s'il vous appelle à lui, que direz-vous? Je lui dirai, mon Dieu, me voici. Quand on fit l'inventaire de sa chambre, on a pu constater que le père Le Sœur, plus pauvre que le plus pauvre vieillard de l'hospice, n'avait plus à lui que son bréviaire et son chapelet. On peut dire que la vocation d'Élisabeth, c'était l'apostolat. Son âme de prêtre, lui, comme certaines mères le font à leur fils, elle l'a peu à peu par sa patience et ses prières et ses souffrances et ses mérites. Elle l'a infusé à son époux et ainsi, entre eux, tout fut commun pour le pire et pour le meilleur. Car il n'était plus deux, mais une seule chair et surtout un seul esprit puis une seule âme. Puis malgré les apparences, la mort ne rompt pas de tels liens. Ils sont unis pour la vie. Que de grâce dans ce couple d'Élisabeth et Félix le Sœur.